La machine à découdre.
Pour en découdre avec les forces de l'ordre, je ne vous décris pas tous les objets dangereux pouvant servir de projectiles.
Il y a une envie d'en découdre chez les militants, oui.
Ce sont des lycéens de deux établissements qui s'étaient donné rendez-vous pour en découdre.
Naturellement, vous aviez envie d'en découdre.
La machine à découdre. Une émission qui détricote l'actualité en points croisés.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 89.5 de Radio Duo en direct pour une nouvelle émission de La Machine à Découdre. La Machine à Découdre, une émission créée par trois collectifs stéphanois, le Cassis, le Quack et Alto Contrôle Numérique. Et ce soir, c'est Alto Contrôle Numérique qui est aux manettes pour une émission sur l'éducation et le numérique. Avec les confinements successifs, nos modes de travail se sont transformés. Dans l'éducation, cela a conduit à un fort développement des outils du numérique, avec notamment la généralisation des cours en distanciel. Une période difficile pour bon nombre d'enseignants et de jeunes lycéens ou étudiants qui continuent d'avoir des répercussions de nos jours. Pour discuter de cette période particulière et des enjeux qui se jouent plus généralement autour de la numérisation au sein de l'éducation, nous accueillons ce soir autour de la table plusieurs invités. Amélie André, enseignante en collège et militante. Bonsoir. Samir, lycéen. Bonsoir. Et aussi Pascal, que vous connaissez déjà un peu, enseignant-chercheur à l'université Jean Monnet. Bonsoir. On va aussi vous passer des extraits d'entretiens réalisés avec des enseignants et des étudiants tout au long de cette émission et des personnes qui n'ont pas pu venir. Et également un extrait peut-être d'entretien aussi avec Florent Gouget, membre d'Écran Total. Ces entretiens seront disponibles en entier sur le site du numéro 0. Et tout de suite, un petit extrait sonore.
On ne peut pas considérer que cette année universitaire-là est une année normale, en fait. Il faut arrêter de se voiler la face, il faut arrêter de penser que les étudiants vont continuer à ne rien dire et continuer à subir cette situation, alors qu'on en a plein d'entre nous qui ont perdu leur travail, qui galèrent à avoir des connexions Internet. Ce qu'on réclame, c'est vraiment du présentiel.
Là, avec les conditions en distanciel, ça a été vraiment très compliqué. Je suis tombée pendant un mois et demi en dépression. Et après, pour attraper toute la charge de travail qui, pour le semestre, ça a été vraiment compliqué.
On veut juste des cours. On ne comprend pas pourquoi est-ce que les lycées ont cours, les prépas, les BTS ont cours, et les étudiants ne peuvent pas y aller. L'Assemblée nationale, c'est les amphithéâtres, ils sont ouverts, alors que nos amphithéâtres sont fermés. Il y a des classes de master où ils sont seulement 14 et ils ne peuvent pas y aller, alors qu'en prépa, où ils sont 30 par classe, ça ne pose aucun problème. Et on aimerait bien étudier simplement, on en a marre d'être dans nos petites chambres de 15 mètres carrés à ne pas pouvoir sortir.
Alors nous allons faire un tour de table afin que vous nous expliquiez comment vous avez vécu les uns et les autres la période de confinement dans vos établissements respectifs avec l'entrée à marche forcée du numérique. Et avant de vous donner la parole, nous allons écouter un enregistrement de Florent qui est professeur des écoles et qui ne peut pas être en studio avec nous aujourd'hui. On l'écoute.
Florent Joly, je suis enseignant à l'école élémentaire des Frères Chappe sur le quartier du Crédroc et représentant des personnels pour le SNUIPP FSU. Alors concernant la période qui vient de se passer et le rapport au numérique là, dans ces moments de distanciel, sur l'école, j'ai pu voir comment ça s'est passé, du coup aussi dans ma classe. Globalement, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup dépendant de l'implantation de l'école et donc pas mal de comment je pourrais dire de la classe sociale du quartier, puisque en échangeant avec des collègues d'autres écoles et notamment de quartiers favorisés, on se rend compte effectivement qu'on ne peut pas du tout utiliser les mêmes outils de la même façon. Moi, sur mon expérience, l'année dernière, donc je pense qu'on a tous été pris de court au moment du confinement, donc on a un peu pataugé, un peu bricolé comme on pouvait. On a tous voulu essayer effectivement d'animer une classe à distance. On a été assez nombreux, je pense, à se rendre compte que c'était pas possible, en tout cas de la même manière que c'était annoncé sur le papier ou présenté sur le papier, à savoir avec utiliser des conférences à distance à 25 avec des enfants qui posent des questions, etc. Enfin, comme si euh, comme si on était en classe. Ça, c'était vraiment pas possible, ne serait-ce que d'un point de vue technique et d'équipement des familles. Puisqu'en fait, puisque nous, on en avait beaucoup de familles qui nous ont dit de ne pas avoir du tout de matériel informatique. En général, toutes les familles avaient au moins un téléphone, type smartphone, mais pour certaines n'avaient pas d'accès à Internet en fait, continu dessus. Donc il fallait qu'ils se déplacent sur un point Wi-Fi, etc. Donc c'était extrêmement contraignant. Et puis en plus, on imagine bien que travailler sur un téléphone, c'est pas adapté. Donc en fait, on a été nombreux à ne pas partir dans ces dispositifs-là et en fait à trouver un moyen d'avoir un échange réel dans la vraie vie, si je puis dire, et du coup à faire venir les enfants au portail pour distribuer ou à faire le tour un peu des boîtes aux lettres du quartier pour distribuer le travail en papier. Puisque là, je parlais du téléphone, donc ça veut dire que les familles qui ont un ordinateur, bah déjà, il y en a beaucoup moins, et alors des familles qui ont des imprimantes pour imprimer le travail qui est envoyé. Je pense que là, on a un élève par classe à peu près sur notre école. Donc on a un peu tous évolué, et ce qui fait qu'au deuxième, là, à la fermeture qu'il y a eu cette année, là, d'une semaine, eh ben, en fait, on est beaucoup à ne pas avoir lancé de choses à distance et à plutôt avoir donné beaucoup de travail, comme s'il s'agissait d'une absence non remplacée un peu longue. Comme on peut des fois en connaître d'ailleurs dans l'éducation nationale sans problème, et donc à donner du travail à faire à la maison et surtout à être disponible pour les enfants s'ils le souhaitent. C'était plus ça la position, de se dire je suis joignable, on peut me contacter ici par mail, éventuellement sur des applications WhatsApp, etc., ou par téléphone tout simplement. Mais là, clairement, effectivement, autant médiatiquement, on avait l'impression que faire classe à distance, c'était quelque chose que les enseignants avaient réussi à faire, avaient transformé leur pratique, etc. Je pense que, mis à part dans certains quartiers très favorisés, ce n'était pas possible, tout simplement d'un point de vue matériel.
Après cette intervention de Florent, professeur des écoles, peut-être avez-vous envie de réagir à ce qu'il vient de dire? Ou voilà, quelles sont vos remarques? Comment avez-vous, vous-même, les uns et les autres, vécu cette période? Alors, qui commence?
Très mal. Donc, je suis André et André, je travaille en collège REP, donc avec un public très défavorisé, avec dans cet établissement deux tiers des élèves qui sont boursiers. Et donc, effectivement, comme l'expliquait Florent, ça dépend sans doute peut-être du public, mais dans mon établissement, quasiment aucun élève n'est équipé d'outils numériques, ou les familles qui le sont, en fait, elles étaient obligées d'utiliser l'ordinateur pour travailler à distance, enfin, quand les parents travaillent. L'imprimante, évidemment, elle n'existait pas. Et donc, ça a été, personnellement, pour moi, ça a été vraiment douloureux parce que dès le début, en fait, personne ne s'est posé la question. Enfin, on n'était que très peu d'enseignants à se poser cette question-là. Et donc, a priori, il fallait tout de suite se lancer dans des classes virtuelles, etc. Moi, il me semblait que le truc le plus simple, c'était que les élèves gardent leur manuel de chaque discipline et qu'on puisse leur envoyer des indications pour les leçons, les exercices, etc. Mais il n'y a eu aucune réflexion là-dessus. Et il a fallu attendre 15 jours pour se rendre compte que les élèves ne se connectaient pas et n'assistaient pas aux classes virtuelles. Donc, certains enseignants s'en plaignaient même, insistaient sur le fait que c'était par acte de fainéantise, voilà. Donc, j'ai trouvé ça très discriminant. Et moi, personnellement, je l'ai mal vécu parce que j'ai trouvé qu'on abandonnait nos élèves.
Donc, Aurélie, moi, je travaille dans un collège plutôt favorisé dans la Plaine. C'est vrai que, bon, le contexte, évidemment, est un peu différent. Mais globalement, les effets ont été les mêmes. On a eu des élèves qui ont décroché assez facilement. Les connexions sont pas forcément très bonnes pour tout le monde. Les appareillages aussi, c'est pareil. Hein. Tout le monde n'a pas forcément un appareil par enfant. Et les parents aussi qui devaient travailler à distance. Moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'on a fait finalement semblant de faire des cours efficaces. Et il n'y a pas vraiment de véritable échange pédagogique quand on va mettre du numérique entre l'enfant et l'élève et l'enseignant. Après, on a un certain nombre de nos collègues qui se sont trouvés valorisés à vouloir faire des classes numériques à tout va. Donc, en fait, sans penser vraiment aux élèves et aux ressentis qu'ils pouvaient avoir avec des classes virtuelles qui se chevauchaient, des doses d'écran dans la journée qui pouvaient être assez fortes. Sans penser à ce qui se passait de l'autre côté, juste pour en faire plus que le voisin. Ça a été quand même très difficile.
Ok. Qui... Pascal ?
Oui, donc moi pour l'université, alors, la situation elle est à la fois très proche et un peu différente. On retrouve les mêmes difficultés en termes d'accès aux outils, même s'il est peut-être un peu moins critique dans le supérieur parce qu'il y a un degré d'autonomie plus élevé de la part des étudiantes et des étudiants que de la part des élèves. Mais on va le retrouver plutôt en premier cycle, en première année, avec des personnes qui n'ont pas nécessairement une connexion Internet de qualité, qui n'ont pas nécessairement des moyens techniques qui leur permettent de bien suivre les cours ou l'environnement également. L'environnement de travail, c'est important. Et ça, on le voyait de façon très claire entre celui qui ne va pas hésiter à mettre la caméra parce qu'il a place pour travailler, et il a un environnement qui peut montrer, et d'autres qui, au contraire, ne vont jamais allumer le micro parce que tout simplement, il y a du bruit derrière. Mais, et je disais, l'université, la spécificité, c'est qu'on a été aussi en distanciel, selon la formule, encore plus longtemps que dans le primaire ou dans le secondaire. Les cours n'ont repris réellement que début février et selon des jauges très, très réduites. Donc ça a été vraiment un choc et un peu comme aussi une marque d'humiliation presque de la part du gouvernement qui autorisait d'un côté des grandes surfaces à être ouvertes et par contre l'université, ça devait rester fermé. Après, au-delà de la question des moyens techniques aussi qui permettent de suivre les cours ou les assurer, ce que je retiens, c'est qu'effectivement ça transforme également la pratique pédagogique et la relation pédagogique. C'est pas la même chose que de ne pas être en classe, à la fois pour les étudiants et étudiantes qui perdent toutes ces dimensions d'interaction, de solidarité, d'échange qu'on a en principe dans une classe, et aussi en tant que moi, en tant qu'enseignant, en fait. Il y a tout un ensemble de techniques pédagogiques auxquelles on n'a pas recours, on a l'impression d'être plutôt là pour éventuellement répondre à des questions, pour délivrer un message, mais de façon très surplombante, et essentiellement aussi pour se glisser dans une posture qui est très cadrée, on a l'impression d'être plutôt dans un suivi de procédure que dans une relation pédagogique, je dirais.
D'accord. Donc là, c'était le point de vue des enseignants, mais nous avons en studio aussi un lycéen qui va peut-être, Samir, pour vouloir nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour lui.
Alors bonjour, je suis Samir et je suis élève en terminale à Honoré d'Urfé. Du coup, l'année dernière, j'étais en première quand la crise sanitaire a commencé et quand nous avons été confinés, les gens ont très vite, très peu suivi les cours et on a rapidement vu que les profs ont adapté les cours et qu'on se retrouvait plus face à des réels cours, mais plus à des petites rubriques dans chaque matière où les profs essayaient de faire quelque chose de plutôt ludique pour nous tenir. Et c'était assez compliqué aussi pour eux parce que qu'ils nous fassent passer les cours par les serveurs de l'éducation nationale qui buguaient très très souvent ou qui nous diffusent directement les cours par aussi des serveurs qui buguaient souvent, on voit que le rapport n'est pas du tout le même et que l'apport n'est pas du tout le même et qu'on n'avance pas du tout pareil. Et il y a eu un très fort décrochage puisque à la fin de l'année, enfin au 18 mai, on a pu reprendre que les spécialités et il y a plus ou moins 10% des premières de l'année dernière qui sont revenues. Donc ça montre bien que c'était très faible. Et pour cette année, l'expérience du confinement total n'a pas du tout été retentée puisque ça ne marchait pas. Et même les gens qui ont une connexion Internet, ils n'ont pas forcément une connexion Internet pour suivre un cours parce que ça demande énormément de connexion Internet. Et on entendait beaucoup dire « Ah oui, pour regarder des séries ou des choses comme ça, les gens peuvent, mais pas pour... » C'est parce que ce n'est pas du tout les mêmes bandes passantes d'abord qui sont sollicitées et que ce n'est pas les mêmes choses et qu'on ne peut pas mettre deux choses sur le même plan. Et cette année, il y a eu beaucoup de une semaine sur deux, donc de groupes qui ont été faits. Et sinon, à partir de janvier, on a repris en classe entière normalement. Et malgré les risques, c'était un peu la pire des meilleures des solutions pour nous. Voilà.
D'accord. Alors, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, on vous propose d'écouter un extrait d'un entretien d'une étudiante donc, qui n'a pas pu venir, Marjo, étudiante en reprise d'études en école d'infirmière, qui a aussi été confrontée donc, aux cours à distance et du coup de manière assez accrue puisque c'était en fac. Et du coup, voilà, elle nous donne son impression sur ce qui s'est passé.
Trouver comme place au numérique en revenant faire des études. Et ce que tu as vu évoluer au fil de l'année écoulée aussi, de ton début à toi de formation.
Du coup, il y a plusieurs places du numérique dans ma formation. Il y a déjà l'enseignement à distance qui était déjà présente au début de mes études, donc avant la crise sanitaire. C'est-à-dire que c'est des plateformes avec des cours préenregistrés sur n'importe quel thème. Aborder quoi. Donc ça c'était déjà le cas pendant la première période de mes études, donc les 6 premiers mois en fait, et à partir du deuxième semestre il y a eu le confinement etc. où là la place du numérique elle a pris beaucoup d'ampleur avec des mises en place de cours en visio petit à petit hein, parce que les premiers temps le temps qu'ils se mettent un peu en place c'était pas tout à fait rodé et aujourd'hui on a principalement des cours en visio en plus de l'enseignement à distance.
Pour les personnes qui ne connaissent pas ce genre de filière, les cours préenregistrés dont tu parles, ils sont enregistrés par qui et proposés par qui?
C'est l'Université de Lyon, ouais. En fait. Donc du coup, ça cible a priori les écoles d'infirmières. Et c'est des médecins, alors je ne sais pas, parce qu'apparemment, il y a des enseignements qui ont été rajoutés pour les nouveaux premières années. Donc il y a des philosophes, des psys, qui enregistrent leurs cours.
Tout un tas de contractuels, enfin de personnel enseignant à la fac, ouais. Quel que soit leur statut, du coup, qui...
Qui, à la base, je pense, était intervenant. Enfin, d'ailleurs, je le sais, puisqu'il y a des cours de philo que nous, on a eu en présentiel avec une intervenante en première année, qui aujourd'hui sont des cours en enseignement à distance et qui ont été préparés par cette même personne.
Donc ça, c'était le modèle, en gros, qui était en train de se développer avant le confinement.
Oui.
Et la différence de la visio, si je comprends bien, c'est qu'en gros, la visio, dis-moi.
La visio, on a un interlocuteur, ouais. En fait. Alors, certes, à travers nos écrans, mais c'est nos formateurs de l'école qui présentent leurs cours ouais. En distanciel. Mais du coup, il y a quand même une interaction possible, quoi. Ouais. Alors, avec les limites de la technique, avec des micros qui ne marchent pas de caméra, ou s'il y a trop de caméra, ça bug, etc., etc. Ouais.
Et sur le je ne sais pas ce que tu as pensé de la fluidité, de la qualité d'enseignement en visio.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on sent que les formateurs cherchent notre intérêt à nous captiver, ils cherchent à nous solliciter, quoi. Et que par moments, effectivement, c'est difficile. Mmh. D'ailleurs, les formateurs ou les intervenants ont pas du tout, sont pas forcément à l'aise avec cette forme-là. Hein. Enfin, je veux dire, il y a plein de moments où tu sens qu'ils sont hésitants, mmh. ou alors ils vont d'un coup se mettre à lire un peu spontanément leurs notes, alors que peut-être qu'ils nous auraient en visu, ils seraient beaucoup plus vivants en fait.
Ouais.
Moi j'ai besoin d'interaction, j'ai besoin de comprendre ce que j'apprends, et que là j'ai l'impression que c'est une exposition de connaissances, où du coup on perd un peu le sens de ce qu'on est en train de nous apprendre. C'est-à-dire que peut-être que dans un cours, un intervenant va dire peut-être la même chose, sauf qu'il sera capable de te préciser ce vers quoi il veut t'amener et ce pourquoi il t'explique d'autres choses qui ne seront pas forcément nécessaires au final, mais qui vont t'aider à donner du sens à ce que tu vas apprendre à la fin, quoi. Alors que là, on n'identifie pas en fait le nécessaire, le pourquoi de... oui, de cette multitude d'informations. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'on me déverse des connaissances et qu'après, il faut que je m'en dépatouille avec.
Ouais.
J'ai eu la chance de commencer mes études avant que ce soit complètement... Enfin, que ce soit notre quotidien. Mmh. Et du coup, j'ai réussi à voilà, avoir des personnes ressources dans la promo pour qu'on arrive à se soutenir et s'entraider et discuter de ce qu'on apprenait et tout ça, quoi. Mais ça, si j'avais pas eu ça, je suis pas sûre que j'aurais poursuivi mes études. Si j'étais arrivée en septembre 2020, je pense que j'aurais vite paniqué. Parce que pour le coup, j'aurais été seule. En plus, là, moi, je suis dans des études où voilà, c'est professionnalisant et c'est dans un métier de l'humain où d'un coup, tu te retrouves tout seul chez toi devant ton écran. Ça perd quand même vraiment de son sens. Ouais. En fait, moi, ça me donne un peu le sentiment que cette forme d'enseignement à distance, elle fixe pour objectif d'aboutir à un résultat, ça cible un apport de connaissances, ça cible des objectifs précis qui vont nous faire passer des partiels et qui vont nous permettre de les réussir. Pour moi, apprendre un métier, c'est pas qu'un amas de connaissances, quoi. C'est comprendre les tenants et les aboutissants, c'est créer sa future posture professionnelle. Voilà. Moi, je pense que, et du coup, j'ai l'impression que seul chez soi, c'est quand même plus difficile de s'interroger et de se construire pour ce but-là, quoi, en fait. Mmh.
Il y a une forme de prise en otage des étudiants par certains, un nombre une fois de plus minoritaire, des enseignants qui refusent de faire cours.
Donc c'était La Macrognole, la chanson des facs et labos en lutte, créée début 2020 par des enseignants et des étudiants en lutte de la faculté de Nanterre. Et pour ce qui est de l'entretien précédent, nous vous rappelons que celui-ci sera disponible sur le site du numéro 0.
Et Madame Vidal, dont il est question dans l'enregistrement, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur, fameuse pour ses déclarations sur les islamo-gauchistes à l'université. Donc, ce numérique, cet essai grandeur nature du numérique dans l'éducation a montré quand même que ça ne marchait pas si bien que ça. Et il n'a échappé à personne que le numérique n'a pas fait son entrée à l'école ces derniers mois à la faveur, si l'on peut dire, du Covid. L'enseignement et le numérique, c'est une vieille histoire. Et d'ailleurs, Pascal va le prouver pas plus tard que tout de suite. Et il va nous faire un petit historique.
Oui, je pense que c'est important effectivement de revenir sur ce qui précède la situation actuelle. Finalement, si on était plongé dans le numérique aujourd'hui, ça serait pas si grave. Mais c'est qu'en fait, il y a toute une histoire là d'ailleurs. Le numérique, il apparaît dans l'enseignement finalement à la fin des années 70. On va voir des premiers plans qui visent à introduire des ordinateurs dans les années 80. Ça va se généraliser surtout à la fin des années 90 en réalité, avec des plans numériques divers. Ensuite, c'est l'introduction de logiciels qui vont concerner d'ailleurs plutôt le primaire, le secondaire. Donc là, mes camarades en parleront mieux que moi. Le ProNote qui était lancé en 99, la base élève au début des années 2010, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on a toute une dynamique qui va se renforcer avec en 2013 une loi sur le numérique éducatif, un plan numérique. Et qui donc implique un recours accru au numérique à la fois dans la pratique de l'enseignement et également dans tout ce qui est toute la partie administrative finalement aussi du fonctionnement d'une école. Dans le supérieur, c'est plus récent, ça remonte à l'année 2013. Il y a une loi, son nom m'échappe là de mémoire, je ne l'ai plus. Mais on voit vraiment aussi qu'il y a la volonté de rendre le numérique incontournable dans la pratique pédagogique, de la même manière que ça a été fait dans le secondaire ou dans le primaire déjà un petit peu auparavant.
Donc est-ce que ça vous paraît pertinent de nous expliquer dans quelle mesure l'informatisation a changé vos métiers ? Enfin, ça forcément, l'informatique, le numérique dans vos métiers, ça a forcément changé le métier. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quelle mesure ? En bien, peut-être ? Je ne sais pas. Voilà.
Moi, je dirais sur tout ce qui est donc Aurélie, enseignante en collège. L'utilisation, notamment, on vient d'en parler là, des logiciels comme ProNote, ont fait que on a une augmentation de la charge de travail qui s'est faite de manière, on pourrait dire, insidieuse. Par exemple, donc on doit remplir dans certains moments donc tout ce qui était, il y a des injonctions à remplir en fait, en tout cas tout ce qui est cahier de texte numérique. Ce cahier de texte numérique s'accompagne aussi donc de toute une messagerie ProNote, donc une messagerie professionnelle auxquelles les parents ont accès, les élèves aussi. Donc on va dire que insidieusement on a la limite en fait vie privée et vie professionnelle qui devient un peu poreuse parce que ça on n'a pas le temps de le faire quand on est au collège sous nos heures de présence, parce que évidemment quand on a la classe, alors on nous dit les injonctions qu'on a, c'est de dire ah oui mais pendant le cours vous pouvez très bien le remplir. Évidemment que c'est impossible, on doit s'occuper des élèves, etc. Et donc voilà, on le fait quand ? On le fait quand on est à la maison, et de plus en plus de collègues nous disent ah oui mais j'ai répondu, c'était tard le soir, c'était dans la nuit, c'était à des moments où voilà j'avais plus la vie familiale, j'avais plus ma vie familiale qui était présente, donc voilà. Et donc en fait là on se met à travailler à n'importe quel moment, et ça c'est vraiment inadmissible quoi. Il faut vraiment faire attention, mettre des barrières, et on a voilà des collègues qui se font pas forcément conscience de ça. Et dans certains cas, ben voilà, ça peut aussi altérer la santé mentale, hein, on peut aller jusque-là, le fait que ben justement on a cette porosité entre les deux. Donc la charge de travail, de fait, elle est augmentée par le numérique. On a beau nous dire, oui, on va vous simplifier la vie, de toute façon, on a une augmentation du temps de travail qui s'est faite progressivement et liée largement par rapport au numérique.
Oui, je pourrais peut-être rajouter aussi quelque chose, c'est que, comme tu dis Aurélie, on a des collègues qui s'acquittent de ces tâches chez eux, et donc effectivement on voit leur vie familiale, personnelle un petit peu bousculée. On a aussi des collègues qui, peut-être en plus de le faire chez eux, mais en tout cas le font aussi pendant les intercours et surtout pendant les récréations, ce qui fait qu'il y a un autre effet pervers. que je perçois, c'est que maintenant dans les salles de profs d'établissements scolaires, de collèges, enfin en tout cas dans mon collège c'est comme ça, il y a quasiment plus personne pendant les récréations. Donc tous ces moments de convivialité, mais aussi d'échanges professionnels qui permettaient de construire du collectif, n'existent plus parce que chacun reste dans sa classe devant son écran pour remplir, renseigner quantité de choses. Et donc, il y a des événements qui se passent dans l'établissement, personne n'est au courant. Parfois, on peut être au courant parce qu'il y a un collègue qui a envoyé un mail, mais voilà. Mais au lieu d'échanger directement sur tel incident avec tel élève, ou même sur, je sais pas, sur un texte, un décret, une réforme, que sais-je, les sujets d'actualité sont nombreux quand même dans l'éducation pour pouvoir réfléchir ensemble. Eh ben, ça nous est complètement volé. Donc moi, je pense que c'est aussi ça l'intérêt de nous imposer le numérique, c'est-à-dire c'est de casser le collectif et voilà, pour pouvoir passer en force certaines réformes et surtout pour nous empêcher de réfléchir collectivement.
Moi je voulais quand même donc Pascal, à l'université, ce qui est le côté positif quand même du numérique à l'université, c'est la capacité qu'on va avoir à accéder à l'information de manière démultipliée. Et par exemple aussi de pouvoir suivre un séminaire qui a lieu à Paris ou ailleurs sans avoir à se déplacer. Ça c'est intéressant pour nous en tant que dans notre pratique d'enseignement ou surtout de recherche, de fait d'avoir accès à une information à laquelle on n'aurait pas eu accès autrement. Ça peut être aussi utile dans le cadre de l'enseignement. De fait, moi, ça va me permettre de faire intervenir des collègues qui sont à distance et plutôt de leur payer un billet d'avion, et ben on va le faire comme ça. Donc ça, c'est pour le volet positif. Après, je retrouve les mêmes choses, effectivement, sur la charge de travail, sur le fait que ça multiplie les procédures administratives. Ça multiplie également les démarches qui sont à réaliser aussi par le personnel administratif. Moi, j'en discutais avec une collègue qui me disait que on leur vendait le fait que désormais ça se passait plus par le papier, que c'était même l'enseignant qui allait être en charge de remplir son dossier, remplir les documents administratifs. Elle me disait en pratique, on se retrouve des fois à devoir rentrer une information aussi bête qu'une date de naissance jusqu'à 4 fois pour pouvoir payer une heure de cours à une personne au moment de son inscription, et etc. etc. Ensuite, c'est sur la disponibilité. Je trouve que vraiment, c'est un gros enjeu. C'était évoqué dès le départ dans l'entretien. Il y a une forme d'injonction à devoir et à pouvoir répondre en continu, le week-end, le soir, et effectivement, une difficulté à tracer des limites. Et ça peut même être un outil, des fois, de contrôle, de flicage. On l'a vu à l'œuvre aussi, par exemple, pour les étudiants, avec le projet qui consistait à surveiller via des outils numériques les étudiants qui réalisaient des épreuves chez eux. Il y a une opposition qui a été construite contre ça, mais on voit qu'il y a ça à l'œuvre. On peut imaginer que le même processus pourrait être aussi à l'œuvre à destination du personnel enseignant. Une façon de contrôler l'activité. Là, je trouve que c'était aussi un des enjeux par rapport à des corrections d'épreuves, il me semble, pour le bac.
Donc, de ce que tu nous dis, c'est que l'outil numérique peut être utile, mais peut-être que le danger, c'est la manière dont il est utilisé, en fait, et fortement déployé de nos jours, parce qu'il faut bien voir qu'on commence déjà à parler d'une généralisation du distanciel. Enfin, il y a des personnes qui y pensent très fortement. Je ne sais pas si vous vouliez dire quelque chose là-dessus, ou si vous avez...
Bah oui, on l'a vu... Vraiment, par rapport à cette période de confinement, déjà, on sentait que le ministère voulait nous imposer beaucoup d'enseignements via le numérique. Mais alors là, c'était la situation rêvée pour eux, en effet. Et donc, oui, on a des collègues qui prennent beaucoup de plaisir à faire ça. Je pense que pour ceux qui s'intéressent à cet outil, ça peut être intellectuellement assez jouissif. Mais pour les autres, c'est pas le cas. Et oui, parce que en effet, quand on peut finalement faire une classe virtuelle devant 50 élèves avec un seul prof, ça permet de faire des économies, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est super intéressant, je pense, pour le ministère de privilégier le numérique pour ne serait-ce que supprimer des postes.
Oui, et concernant donc Pascal, excuse-moi, concernant le flicage des profs, c'est vrai qu'il y a un exemple, il y a un exemple qui vient de sortir là, concernant le bac justement. Donc il y a une prof de Grenoble qui déclarait que parce qu'il y a un truc nouveau aussi, c'est la correction, la numérisation des copies. Alors Samir, tu es concerné directement, parce que l'épreuve de philo que tu as passée cette année, je finis puis tu nous expliqueras, les feuilles sont numérisées et il y a énormément de couacs. C'est-à-dire que les profs reçoivent leur lot et il manque des pages. Il manque des pages, ou les pages sont dans le désordre, ou bien c'est même désanonymisé, parce qu'il y a la convocation qui est envoyée avec. Donc, vous savez comment s'appelle la personne que vous allez corriger. Et concernant le flicage, alors j'ai lu aussi, toujours la même collègue, là, qui est un peu militante, qui dit, il y a des collègues, je cite, il y a des collègues qui ont reçu leur copie de BTS de français, et qui, 24 heures après... donc des copies numérisées, ont reçu des mails qui leur demandaient pourquoi ils n'avaient toujours pas commencé à corriger. Alors, comme outil de flicage, ça c'est quand même extra. Alors, Samir, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur l'épreuve de philo que tu as passée? Et puis, flicage des profs, peut-être vous allez aussi nous en parler, et flicage des élèves aussi, avec tous les fichiers, tous fichés, hein.
Alors, juste avant la philo, il y avait le E3C qu'on a passé l'année dernière ou qu'on a passé cette année, enfin, selon les... qui était aussi numérisé. Il y avait déjà eu ces problèmes où les profs nous expliquaient que nos copies n'étaient pas anonymes et qu'ils savaient qui ils avaient corrigé à plus ou moins. Et que, à ce que j'ai compris, cette année, c'était exactement pareil et qu'ils avaient repris les défauts de l'année dernière. Donc, c'est pour ça qu'il y a des copies dans le désordre, des copies pas anonymisées. Et c'est sûr que c'est un peu un problème pour nous de nous dire que ça marche comme ça et qu'il y a un peu aussi une pression de la part des élèves puisque ils aiment bien leurs profs et ils se disent si on fait plus de pages, si on fait plus de trucs, est-ce qu'en fait on va pas embêter tout le monde ou est-ce que... Enfin, il y a un peu ça qui est un peu de manière insidieuse qu'on pense aussi. Après aussi, je voulais revenir un peu sur l'idée d'avant par rapport à Pronote. Les outils numériques pour les parents qui ne vont pas sur Internet ou qui ne vont pas sur Internet pour suivre la scolarité de leurs enfants, ça les a totalement coupés de la scolarité de leurs enfants puisqu'ils ne suivent plus rien, puisque toutes les informations de la réunion parents-prof au simple relevé de notes passent quasiment que par Internet. Et du coup, c'est un problème. Et deuxièmement, c'est que à défaut d'avoir les conditions d'enseignement qui se dégradent, on a un lien permanent avec l'enseignement, avec Pronote. Du coup, on peut retrouver des cours, des dossiers, des documents, mais on peut rien y faire, on peut rien en faire en soi. Et Pronote, on le voit, c'est utilisé juste pour regarder les notes, pour voir si le prof n'a pas mis de notes pendant le week-end. Et même nous, ça nous habitue de manière un peu malsaine à pouvoir aller un peu quand on veut sur Pronote, à minuit, à envoyer un message au prof ou à regarder nos notes pour voir si le prof l'a pas mis dans le week-end, à être un peu précipité. Et du coup, ça nous donne des habitudes de vie numérique qui commencent à déjà montrer une dépendance par rapport aux outils qui sont proposés et une surconsommation. Voilà.
Okay. Pascal, tu voulais peut-être ajouter quelque chose quand je t'ai coupé la parole, excuse-moi.
Oui, moi je trouve que le numérique tout seul, et ça serait pas forcément si grave. C'est grave parce que c'est un outil qui va être mis au service d'autres fins également. Notamment le fait qu'on puisse effectivement suivre l'activité, que ce soit des élèves ou des enseignants. C'est un problème dans un contexte où on est dans une dynamique où on va renforcer le pouvoir de l'équipe administrative, de la logique gestionnaire en fait au sein d'un établissement. Et le numérique, ça va être un instrument qui permet d'assurer plus de contrôle. Donc en soi, c'est un outil, mais qui va être utilisé à d'autres fins. Et c'est un peu la même chose d'un point de vue pédagogique aussi. Moi, je trouve qu'on peut faire des belles choses avec le numérique. Le problème, c'est quand ça devient également un moyen d'accentuer des dynamiques qui sont déjà à l'œuvre, et notamment, par exemple, de segmenter l'apprentissage des connaissances, le fait que désormais, c'est ce qui était dit aussi tout à l'heure dans l'entretien, ce qui prime, c'est pas tant la transmission de connaissances que la validation qu'on va attendre à la fin, et le numérique devient très, très puissant de ce point de vue. Donc c'est en ça que je trouve qu'il faut le resituer dans un contexte un peu plus large de transformation également de l'enseignement.
Alors au sujet du numérique justement et des effets pédagogiques, notamment au niveau des écrans, on a ici l'extrait d'un entretien de Florent Gouget de Écran Total. On vous le passe tout de suite.
Concernant les effets des écrans sur les enfants, qui n'est pas directement une question pédagogique, mais qui est bien sûr un soubassement essentiel. Elle a été rendue publique il y a maintenant quelques années, et on commençait à en parler, malheureusement avant le confinement, qui a dû être désastreux de ce point de vue-là, puisque contrairement à certains pseudo-experts, et notamment un avis de l'Académie des sciences très rassurant sur le sujet, des professionnels de la petite enfance, que ce soit des orthophonistes, des pédopsychiatres ou autres, ont alerté sur ce qu'ils voyaient dans leur cabinet, se sont regroupés dans différents collectifs, comme Alerte Écran ou Le Cause, et ont signalé ce qu'ils voyaient, avec une polémique autour de l'emploi du terme de trouble du spectre autistique, mais en fait, globalement des retards de langage, des retards de développement, principalement liés à un fait simple, qui est que le temps d'écran est du temps perdu pour la vie, et donc pour le développement. Mais bon, pour la vie en général, chacun peut le vérifier. Les conséquences de la télévision, c'était déjà extrêmement documenté, et le même qui a écrit un livre condensant toutes les études sur le numérique, Michel Desmurger, avait déjà écrit un TV Lobotomie il y a quelques années, mais sans même faire référence à ces auteurs-là, quelqu'un comme Lilian Ursa, psychologue travaillant en école pour ces terrains, s'était déjà inquiété des effets de la télévision, avait travaillé dessus, avait parlé d'une socialisation par l'écran pour les plus jeunes, à savoir que la principale interaction qu'ils ont, enfin l'absence d'interaction, était avec la télévision, et donc c'est par là que se faisait leur socialisation, une partie de leur développement. La même chose vaut pour le numérique, malgré la pseudo-interactivité, c'est en fait beaucoup plus massif, beaucoup plus prégnant. C'est un très mauvais moyen pour un apprentissage qui doit d'abord tenir compte de l'interaction humaine et notamment du physique, du volume, du toucher, toutes choses essentielles pour le développement moteur mais aussi cérébral, tout ça étant lié comme on le sait maintenant. Pour les plus grands, y compris les adultes que nous sommes, il paraît assez clair que lire sur écran n'est pas lire, on a inventé des termes différents pour désigner des réalités qui auparavant n'existaient pas, un peu comme le bio a été créé à partir du moment où la nourriture normale est devenue de la cochonnerie, donc la lecture par écran serait une lecture superficielle, en diagonale, en arborescence, en jonglant d'une information à l'autre, bref, quelque chose qui ne permet pas de lire réellement en profondeur, ni de mémoriser correctement, ni de s'approprier les textes. Et ça touche bien évidemment ceux qui apprennent en premier lieu, mais aussi plus tard ceux qui ont déjà appris et qui peuvent désapprendre, ou en tout cas ressentir une gêne. C'était la base de l'enquête du journaliste américain Nicolas Kerr, qui a fait un article puis un livre sur le sujet, en vulgarisant les recherches scientifiques sur le sujet. D'une façon générale, il n'y a aucun intérêt à employer une méthode automatisée, informatique ou autre, pour apprendre à faire quelque chose. On peut le faire une fois qu'on sait déjà faire, sinon on apprend à ne pas faire, comme la calculatrice l'a montré depuis longtemps avec le calcul. C'est vrai pour le traitement de texte, c'est vrai pour tout. Et on doit donc retarder au maximum l'introduction de ces objets, si tant est qu'on doive les introduire, ça doit être pensé au cas par cas, en prenant en compte non pas simplement la praticité ou l'éducation, mais la société dans son ensemble et ce que ça lui coûte à tous les niveaux.
Oui. Si on a mauvais esprit, c'est mon cas donc, on peut dire que le numérique à l'école, c'est un marché gigantesque pour les entreprises privées qui fournissent le matériel, les logiciels. Et puis c'est un marché sans fin, puisque le matériel est très vite obsolète et doit être renouvelé. Il y a quand même 12 millions de d'élèves en France, quasi 1 million d'enseignants. Donc voilà. Par contre, ce qu'il serait intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que les nouvelles technologies apportent en termes d'avancées pédagogiques. Est-ce que vous avez une réponse là-dessus, un avis là-dessus? Ce silence.
Moi, j'ai un avis négatif. Hein, je pense. Enfin, je vais prendre par exemple voilà, quelque chose de très concret. Par rapport à Pronote, on a parlé de Pronote et donc de l'agenda. On doit remplir donc ce fameux cahier de texte numérique et donc au final, les élèves pourraient ne plus avoir de cahier de texte, d'agenda et regarder directement sur Pronote. Ben, ça, je trouve, moi j'ai des élèves de 6e, je trouve que c'est profondément antipédagogique parce qu'un élève qui arrive en 6e, il doit pouvoir apprendre justement à s'organiser dans le temps, etc. Et le support papier me paraît vraiment intéressant. Si on le lui enlève et que finalement, il rentre chez lui, comme disait Samir tout à l'heure, il y a cette accoutumance à l'écran. Les parents aussi peuvent fliquer parce qu'on a aussi cette injonction des parents qui disent « oui, c'est drôlement bien parce qu'on peut vérifier ». Mais en fait, donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de discussion avec les parents et l'enfant, il n'y a plus de responsabilisation. Bon, c'est un exemple concret. Moi, je ne suis pas du tout convaincue du bienfait au niveau du collège. Hein. Bon, après, j'entends qu'effectivement, à l'université, il peut y avoir des choses intéressantes. Mais je trouve qu'en collège, au moment où justement les enfants n'ont pas encore la maîtrise totale de la lecture, je m'en rends compte puisque je suis professeure de français, donc même en troisième, parfois, on a des élèves qui ne maîtrisent pas totalement la lecture. Je trouve ça fortement dommageable. Et puis bon, alors après, il y a aussi un autre sujet, mais il faudrait peut-être pour ça une autre émission, c'est aussi tout l'aspect environnemental, parce que tous ces outils numériques qu'on nous oblige à acheter sont fabriqués avec des métaux rares, etc. Le stockage des données, ça consomme de l'énergie, donc il y a aussi un enjeu climatique, alors qu'on nous dit qu'il faut faire très attention à notre planète. Voilà, ça c'est complètement nié aussi, il me semble. Mais là, je m'écarte du sujet.
Alors, il faut savoir que pour ce qui est des écrans, 5 à 14% des adolescents seraient en situation de cyberdépendance selon les critères établis par l'OMS. Et on peut également noter que les patrons des GAFAM limitent les écrans pour leurs enfants et que les pays aux meilleurs résultats sont ceux qui n'ont pas tout misé sur le numérique, selon différentes études. Samir, tu veux dire quelque chose ?
Oui. On l'a vu, nous, lors du premier confinement. Le 13 mars, cette semaine de mars, le lycée avait essayé de décrocher tous les ordinateurs du lycée pour les donner aux élèves, ce qui paraissait une bonne initiative, mais en fait, très vite, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de carte son ou que par mesure d'économie, il manquait assez de composantes à l'ordinateur, ce qui faisait qu'en fait, les ordinateurs qu'on avait devant pouvaient nous servir qu'à faire du traitement de texte et à lire des documents sur Internet. Du coup, ça a été un vrai problème. Et c'est pareil pour tous les équipements de l'éducation nationale, puisque j'ai plus le nom du logiciel qui nous servait à suivre nos cours sur Internet, mais personne ne l'a utilisé et on s'est tout de suite reporté sur des logiciels privés comme Teams, sur Zoom, sur le logiciel de Google. Et même avec les profs, on communiquait plus par Pronote, mais par WhatsApp, par Instagram ou par Snapchat pour les plus modernes, mais voilà, on est passé dans un autre niveau aussi par rapport à ça.
Je trouve que c'est très important là, ce que Samir vient d'évoquer aussi, vraiment les enjeux économiques et financiers. On a l'impression de temps en temps que c'est même ce qui prime quasiment dans cette introduction d'outils numériques, c'est qu'est-ce que ça permet aussi de construire comme marché. Un marché pour des entreprises qui sont des entreprises parfois françaises, notamment des entreprises françaises, étrangères également, quand on parle de Zoom ou d'autres. Mais on a l'impression qu'effectivement, c'est aussi une manière de proposer des débouchés économiques et financiers. Et je pense qu'il ne faut pas le négliger dans cette dynamique qui vise à pérenniser ces outils.
Je vous livre une conclusion de l'OCDE, dans un rapport de l'OCDE qui est paru en 2015 sur les technologies de l'information et de la communication, ou TIC. Alors, une conclusion, c'est les élèves utilisant modérément les ordinateurs à l'école ont tendance à avoir des résultats scolaires légèrement meilleurs que ceux ne les utilisant que rarement. Mais en revanche, les élèves utilisant très souvent les ordinateurs à l'école obtiennent des résultats bien inférieurs dans la plupart des domaines d'apprentissage, même après contrôle de leurs caractéristiques socio-démographiques. Donc voilà, qui est riche d'enseignements.
Du coup, pour essayer aussi de pousser peut-être un peu plus loin aussi la discussion, on vous propose l'extrait d'un entretien, donc toujours avec Florent Descrans Total, qui nous parle du coup de l'appel de Beauchastel, un appel donc, qui a été réalisé par une quinzaine d'enseignants, sorti en 2015. C'est contre la formatisation de l'éducation, et voilà, on vous le passe tout de suite.
L'appel de Beauchastel a été lancé en 2015, fin 2015, par un groupe d'enseignants, ainsi que quelques personnels de vie scolaire, puis de parents, d'élèves, qui s'est retrouvé suite à des rencontres dans le réseau Écran Total, qui regroupe des gens qui critiquent l'informatisation de leur métier ou l'application de méthodes de gestion, de nouvelles méthodes de management, qui les dépossèdent de leur outil de travail ou ôte le sens, le reste de sens qu'il y a au métier qu'ils ont choisi. Nous nous sommes trouvés assez nombreux pour lancer cet appel dans l'enseignement, d'abord parce que on faisait des constats similaires à ce qui se passe ailleurs, donc rationalisation, présence du réduction de coûts, partialisation des tâches, mais aussi parce que il y avait des problématiques propres à l'enseignement qui nous paraissaient urgents de traiter et surtout de contrer. Cet appel a la particularité d'être un appel à la désobéissance, d'être un engagement à refuser certaines tâches obligatoires, parmi lesquelles la tenue du cahier de texte numérique, électronique, et celle de l'appel en ligne, qui sont les deux pratiques obligatoires qu'on a pu trouver communes, au moins aux professeurs du secondaire, étant donné que l'usage pédagogique, tablette, ordinateur, s'il est de plus en plus fréquent, s'il est de plus en plus encouragé par les inspections, n'est pas strictement parlé obligatoire. Et cet aspect de refus nous a paru important, parce qu'il existe beaucoup de pétitions, de textes de dénonciation et d'analyse, mais qui ne sont pas toujours liés à des faits ou à des effets. Et nous avons choisi cette formule-là qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas 100 signataires, mais que toutes les personnes qui, en poste, ont signé cet appel, je ne parle pas des soutiens extérieurs, ont suivi ces engagements, se sont retrouvés pour essayer de les tenir ensemble et se soutenir quand il y avait des difficultés. Et il y en a eu, notamment pour une personne qui s'est retrouvée blâmée en fin de carrière pour une question d'appel en ligne. L'appel détaillait évidemment des motifs pour s'y opposer en distinguant une partie administrative et une partie pédagogique, et puis une partie qu'on pourrait dire de société, d'analyse générale, notamment la composante écologique. C'est un vrai désastre que cette numérisation généralisée. Mais pour ce qui concernait donc l'école, la partie administrative, estimions-nous, brise la relation humaine, ou la détourne, ou la fait disparaître à travers des messageries, une communication instantanée, notamment pour l'appel, une surveillance permanente, dont le principal objet est de couvrir tout le monde juridiquement à tous les niveaux et à chaque heure, mais qui dans les faits, pour traduction, outre une inefficacité totale sur le décrochage ou l'absentéisme, l'obligation d'allumer un ordinateur à chaque heure de cours, quoi qu'on ait par ailleurs à en faire, y compris rien du tout.
Bon, l'émission touche à sa fin. Nous avons bien conscience que nous n'avons pas traité tous les sujets. Et c'est un petit peu frustrant. Magali, là, va nous... Ah oui, rappel quand même, tous les enregistrements au complet sont sur le... vous pourrez les réécouter, et l'émission de même. Et Magali va nous donner l'agenda.
Oui, alors l'agenda, ça va être rapide parce que bon, en ce moment sur Saint-Étienne, c'est un peu les vacances, les mobilisations se font rares, mais toutefois, nous pouvons noter que l'ancienne école Massenet, rebaptisée chez Elia, est toujours occupée, qu'une AG est organisée dimanche à 17h30, une cantine a lieu également tous les mercredis midi. Pour plus d'informations, allez voir sur le site du numéro 0. Sinon, une séance de dédicace avec l'avocat militant Harry Halimi et Farid Al-Yamni, membre du comité Justice et Vérité pour Wissam, aura lieu demain de 11h à 12h30 à la librairie L'une et l'autre. Cette rencontre sera suivie d'une table ronde à l'amicale du Credroc dans l'après-midi à partir de 14h sur le thème de la violence d'État. Et il est temps pour nous, hélas, de nous quitter et on le fait en musique sur Another Brick in the Wall des Pink Floyd. Bonsoir à toutes et à tous, c'était Alto Contrôle Numérique dans la machine à découdre sur le 89.3. You're just